s'aperçoit-on en marchant dans les rues de Paris ou d'ailleurs? C'est la grande question que pose Agnès Lévit, spécialiste de l'espace et du mobilier urbain. Détentrice d'un doctorat en philosophie à l'École des hautes études en sciences sociales, elle a, entre autres, enseigné l'histoire et l'actualité du design à l'INSA de Lyon et dirigé l'École de design des Pays de Loire à partir de 1990. Agnès Lévit est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, comme « Regard sur le design urbain », paru en 2013, dont nous allons parler aujourd'hui. Dans ce livre, elle s'intéresse particulièrement au mobilier urbain et à la manière dont les citadins le perçoivent et l'utilisent. Colonne Maurice, station Vélib, lampadaire et autres bancs, le mobilier urbain, qui nous est si familier et dont la visibilité confuse ne fait presque jamais question, a pourtant une histoire, celle des villes, une physionomie, celle du regard, et une philosophie, celle de la perception. Il s'agit d'un manuel autant que d'une découverte du design et du plaisir urbain. Agnès Lévit sépare son livre en deux parties. La première analyse en profondeur ce qu'un piéton voit et ressent en ville en s'appuyant sur les neurosciences et la phénoménologie, ainsi que sur de grands axes tels que voir et apprendre, ou encore de l'intention à l'appréciation. C'est aussi l'occasion de s'arrêter sur les principaux mobiliers, dont certains sont spécifiquement parisiens, comme l'entrée du métro, et d'en découvrir l'histoire, les usages et les détournements. Voici l'exemple du potelet, ou plus familièrement, de la bite de trottoir. Le potelet. La connaissance commune est celle qui sert à la vie de tous les jours et qui ne demande guère de savoir préalable, à l'opposé des connaissances techniques et scientifiques. On se souvient de la bite, entre parenthèses, potelet, qui est apparue soudainement en 2002 dans les rues parisiennes sans référence visuelle préalable. Beaucoup de piétons ont d'abord appris à éviter de s'y cogner physiquement les pieds ou les bras, parfois à leurs dépens. D'autres usages, non prévus à l'origine, sont apparus et font désormais partie du quotidien de celui qui a appris à apprivoiser l'objet. On peut reposer la paume sur la sphère qui termine l'objet dans sa partie supérieure, en attendant que le feu l'autorise à la traversée de la chaussée, ou pour enjamber l'eau mal évacuée en temps de pluie. D'autres ont accaparé la bite de trottoir pour y accrocher leurs affiches, devenues support sauvage d'informations en tout genre. L'objet a explicité ce qu'il est, ce à quoi il sert et ce qu'il peut devenir. Sans prétention outrageuse, on peut suggérer que l'histoire du potelet enrichit la culture du piéton qui s'y intéresse. La forme d'origine est née sans doute au XVIIIe siècle, pour initier le cavalier novice aux difficultés de l'équitation, ce qui explique le diamètre rétréci sous la boule. On pouvait y attacher la lance de son cheval sans crainte qu'elle ne se détache. Le métal remplaça bientôt le bois. La forme s'est régularisée sur ordre de Napoléon Bonaparte au début du XIXe siècle, lorsque ce potelet fut utilisé pour y maintenir menottés les contrevenants au respect de la tranquillité publique. Le diamètre évolua avec la forme des menottes. Le potelet protège toujours le piéton innocent, mais aujourd'hui, c'est contre les véhicules. La boule n'a pas la fonction de retenir les menottes, mais peinte en blanc, elle aide les malvoyants à se repérer. Et la distance d'un mètre entre les deux poteaux interdit tout stationnement ou circulation des voitures. Leur forme lisse empêche les utilisateurs de deux roues d'y attacher leur antivol. Voilà quelques-unes des réponses aux questions que le regard du piéton peut poser au hasard de sa promenade. La seconde partie du livre est une méthode d'étude originale qui consiste à faire parler librement les promeneurs sur un parcours déterminé, observer leurs gestes et leurs regards. 10 intrigues naissent alors, petites histoires sur l'ordinaire de nos émotions, de nos plaintes, mais aussi de nos plaisirs et déplaisirs. L'auteur nous explique.
J'ai interviewé in situ dans la rue, avec un petit iPod, des piétons sur le même parcours. Et à 3 d'entre eux, j'ai mis un oculomètre portable. À l'époque, c'était encore un casque et ça me restituait leur regard 3 fois par seconde. Chaque fois, j'avais une petite croix et j'ai pu le croiser avec ce qu'ils disaient. Et comme tous ces piétons avaient cheminé sur le même chemin dans Paris, j'étais devant une masse d'informations passionnantes et je me suis rendu compte qu'en fait, la perception, elle se fait dans le temps. On va voir cet abribus au loin et puis plus on va s'en rapprocher, plus on va comprendre et on va se dire « Ah ben je vais peut-être retrouver un autobus ou peut-être je vais pouvoir m'asseoir sur le banc ». Et j'ai fait comme ça toute une série de petites intrigues autour de ces grands concepts que j'avais construits du voir en, du voir pour, de l'intention, de l'imagination, de tous ces phénomènes.
Pour l'écriture de son livre, l'auteur s'est inspiré de nombreux ouvrages comme « La laideur se vend mal » de Raymond Lévy, qui traite lui aussi de la perception et de l'esthétique des objets. Au fil des pages, elle soutient sa thèse en citant de nombreux philosophes, écrivains ou encore poètes. On peut dire qu'Agnès Lévy a traité du sujet sous toutes ses coutures, ne laissant rien ni personne au hasard. Sa sensibilité de piétonne heureuse se promenant dans les rues et sa vision de théoricienne à la curiosité érudite lui a permis de classer les concepts et définir ce qui, au départ, relève de la flânerie. Ainsi, ce livre donne à voir le quotidien urbain dans toutes les dimensions du savoir, du sensible et du plaisir.